Bonsoir. François Hollande commence ses négociations sur la question de la croissance en Europe. Le président, pas encore investi, a rencontré tout à l'heure Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Objectif, déminer le terrain avant ses prochaines rencontres avec Angela Merkel et deux sommets européens consacrés justement à la croissance. Alors qu'Allemagne, Espagne et Portugal l'ont répété aujourd'hui, ils ne dérogeront pas au pacte budgétaire européen. Les tractations s'intensifient. En vue des législatives, le Front National fait du pied à l'UMP et le Parti Socialiste planche sur un accord avec le Front de Gauche. Nouveauté ce soir, on parle d'une candidature de Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. Nous irons également en Syrie où un convoi de l'ONU a été la cible d'un attentat aujourd'hui. Correspondance de Valérie Crova. Et puis en Égypte où 21 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour des élections législatives. On s'attend à une poussée des islamistes modérés. Discussion avec notre invité Hassen Ouali, il est journaliste politique au quotidien El Watan. Il n'est pas encore investi, mais déjà les dirigeants européens viennent à lui. François Hollande a reçu cet après-midi Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, au moment où tous s'accordent sur la nécessité d'une dose de relance de la croissance sans se mettre d'accord sur l'ampleur de cet assouplissement. L'échange a été positif, approfondi, constructif, selon Pierre Moscovici, chargé de la transition. Compte rendu détaillé avec Catherine Dutu.
Pour cette première réunion européenne au QG de transition de François Hollande, le président élu a bien sûr parlé de la crise qui ébranle les pays de la zone euro, dont la Grèce. François Hollande se tient informé de manière extrêmement précise de la situation. C'est ce qu'a déclaré son ancien directeur de campagne, Pierre Moscovici. La sortie de la Grèce de l'euro a-t-elle été évoquée par le président élu? Pas de réponse. Pierre Moscovici a affirmé que François Hollande s'exprimerait le moment venu sur le sujet. Ce que le nouveau président a réaffirmé clairement devant Herman Van Rompuy, c'est sa volonté de relancer la croissance en Europe. Parmi ses propositions, taxer les transactions financières, augmenter le capital de la Banque européenne d'investissement, mais aussi renégocier ou compléter le pacte budgétaire européen. L'Allemagne n'y est pas favorable. De tout cela, il en sera également question demain. François Hollande rencontrera à 14h30 Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe et premier ministre luxembourgeois. Des contacts qui serviront à préparer le sommet informel des 27 dirigeants européens le 23 mai prochain et le sommet officiel des 28 et 29 juin.
Et aujourd'hui, François Hollande a reçu le soutien de son homologue italien Mario Monti qui a appelé une coalition de bonne volonté sur la croissance. Loin de laisser le champ libre à cette coalition, justement, Angela Merkel a martelé. 25 pays ont signé le pacte budgétaire, que chacun s'en tienne à ce qui a été décidé. La chancelière a été suivie par les dirigeants espagnols et portugais réunis pour un sommet ibérique à Porto. Malgré les soubresauts politiques que connaît la Grèce, les deux pays engagés eux aussi dans une politique de stricte austérité budgétaire n'ont pas l'intention de changer de cap. Et ce même si l'Espagne ne parvient pas à respecter ses objectifs de réduction des déficits pour les deux prochaines années. C'est ce que la Commission européenne devrait annoncer en fin de semaine. En Grèce, troisième et dernière chance de former un gouvernement. La gauche radicale a échoué. C'est maintenant aux socialistes du PASOK de se mettre au travail. Le PASOK, un parti favorable aux politiques d'austérité européenne. S'il échoue, de nouvelles législatives seront organisées. Elles pourraient donner un plus large poids au parti anti-européen. Conséquence de cette instabilité politique, la zone euro vient de reporter à lundi le déblocage d'1 milliard d'euros de versements à la Grèce. Le pays n'en aurait pas besoin avant juin, tente de rassurer le Fonds européen de stabilité financière. Certains pays européens préféreraient obtenir des garanties de la part de la Grèce avant de donner leur accord. En France, UMP et Parti Socialiste ont refermé la page de l'élection présidentielle. Dans chaque camp, c'est maintenant l'heure des tractations pour les législatives. À gauche, la question Bayrou est maintenant réglée. Le Parti Socialiste a décidé d'investir une candidate face au patron du Modem. Reste la question des alliances avec le Front de Gauche notamment. 55 circonscriptions seraient concernées. Et parmi les candidats du Front de Gauche aux législatives pourrait figurer Jean-Luc Mélenchon. Selon la Voix du Nord, le Parti communiste lui proposerait d'affronter Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. Si Jean-Luc Mélenchon accepte, le combat sera difficile. La présidente du FN est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle avec 35% des voix. Marine Le Pen qui tend la main à l'UMP pour des alliances à droite, cette fois en vue des législatives. Selon le patron de l'UMP, Jean-François Copé, il y a une vingtaine de circonscriptions délicates. La présidente du FN ne parle pas d'accord, mais elle n'exclut plus des discussions au cas par cas dans ce type de circonscription. Christian Galland, enfin, avec des candidats UMP tentés par les sirènes de la droite extrême.
Et oui, il est loin le temps, 1986, où par la grâce de la proportionnelle et de François Mitterrand, le Front National avait fait entrer 35 députés au Palais Bourbon. Malgré les 18% de Marine Le Pen, la formation frontiste n'a à ce jour qu'une capacité de nuisance. Capacité incontestable, le FN est en mesure d'inquiéter, voire de faire chuter le candidat UMP dans 125 circonscriptions, avec des cibles de choix, Nathalie Kosciusko-Morizet ou Xavier Bertrand ou encore Jean-François Copé. Et puis rien, ou très peu. Les espoirs de voir les députés FN au Palais Bourbon sont très minces. 4-5 possibilités au mieux, Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et Gilbert Collard dans le Gard étant les mieux placés. On est loin d'un groupe parlementaire. Alors, faute d'un accord avec l'UMP que les deux partis récusent, Marine Le Pen n'exclut pas maintenant des discussions au coup par coup avec des candidats UMP marginalisés dans leur mouvement, voire au bord de l'exclusion. On peut penser au député du Nord, Christian Van Est. Il lui en faudra une bonne douzaine d'autres pour réussir son pari. Faute de l'implosion de l'UMP, elle n'a guère d'autre solution.
En Syrie, le chef des observateurs de l'ONU, Robert Mood, veut montrer qu'il n'est pas déstabilisé par l'attentat qui a visé son convoi à Deraa, bastion de la contestation dans le sud. 6 soldats ont été blessés, le général onusien n'a pas été touché, mais l'attaque est un nouvel affront à la mission de l'ONU. Hier encore, Kofi Annan mettait en garde contre une guerre civile totale en cas de violation de son plan de paix. Correspondance de Valérie Crova à Damas.
Qui est derrière l'explosion qui a visé pour la première fois un convoi d'observateurs depuis que les casques bleus sont arrivés en Syrie en avril dernier? L'opposition a tout de suite accusé le régime d'être à l'origine de l'attentat qui aurait pour but, selon elle, d'éloigner les observateurs du terrain. De son côté, le colonel Riyad al-Assad, le chef de l'armée syrienne libre, a menacé hier de reprendre ses attaques contre les forces gouvernementales pour protester contre le non-respect du cessez-le-feu par le régime. Est-ce un hasard si la bombe a explosé à la fin du cortège, après que les voitures des Nations Unies sont passées et que seul un véhicule militaire dans lequel se trouvaient des soldats syriens ait été touché? Personne n'est capable de le dire ce soir. Le chef de la mission des observateurs, le général Robert Mood, qui était dans le convoi, s'est limité à dire que cette explosion illustrait ce qui se passait partout en Syrie. Nous restons concentrés sur notre mission, a-t-il conclu sans faire d'autres commentaires.
Valérie Crova. En Algérie, on s'attend demain à une poussée des islamistes modérés lors des élections législatives. 462 sièges sont à pourvoir. La nouvelle assemblée aura notamment la responsabilité d'approuver la nouvelle constitution. Malgré l'appel inédit du président Bouteflika hier à une forte participation, les électeurs ne devraient pas se bousculer devant les urnes. À Alger, le reportage de Marie Euclin. هو أن نتمكن من إدخال
تعديل جوهري على الدستور أي الديمقراطية النيابية. C'est dans la cité populaire des Eucalyptus dans la banlieue d'Alger qu'Abdallah Jabala, chef de file du parti islamiste El Adala, prononce son dernier discours de campagne. Ancien candidat à la présidentielle, il fait son retour sur la scène politique pour ses législatives et il croit en ses chances.
Nous avons un projet de société qui repose sur trois piliers sacrés, l'islam, le pays et le peuple. Et si le scrutin est transparent, nous serons les premiers.
Deux autres formations islamistes sont présentes dans ce scrutin, l'Alliance verte, qui regroupe trois partis déjà présents à l'Assemblée nationale, et le Front du changement. Toutes sont convaincues de pouvoir surfer sur la vague des révoltes arabes. Leur discours porte dans la population, mais ils ne symbolisent pas forcément l'alternative. Rachid Lemsani, chercheur en sciences politiques à Alger.
Les islamistes participent au pouvoir depuis les années 90. Ils ont des portefeuilles ministériels, ils sont en force dans les assemblées nationales. Donc les islamistes ne se sont pas distingués dans leur gestion des non-islamistes. Ils sont corrompus, ils se sont enrichis au même titre que les autres responsables politiques.
Ainsi, comme l'ensemble de la classe politique, les islamistes pourraient souffrir de la forte abstention attendue demain. Le pouvoir se mobilise depuis des jours et des jours pour convaincre les Algériens d'aller voter. Hier encore, le président Abdelaziz Bouteflika s'est adressé aux jeunes dans un discours. Il les a appelés à assurer la relève et à se rendre aux urnes, mais rien ne dit qu'il sera entendu.
Voilà, reportage de Marie Euclin à Alger que vous venez d'entendre, Hassen Wali. Vous êtes journaliste politique à El Watan et vous êtes notre invité ce soir. Vous attendez-vous également à cette poussée des islamistes à côté du FLN, le parti au pouvoir ?
Il est évident que le courant islamiste, avec ses différentes variantes, est une réalité politique et sociale dans le pays. Ils ont une base électorale qui leur permet de conquérir beaucoup de sièges au Parlement. Seulement, ça ne va pas être le raz-de-marée des islamistes. Ça ne va pas être le péril vert, en tout cas.
Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?
Il y a un élément essentiel, c'est que demain, à l'occasion de l'élection législative, et on a eu à le constater durant cette campagne électorale qui a duré 3 semaines, que ce qui a caractérisé justement cette campagne, c'est la très faible mobilisation populaire. Il n'y a pas eu une adhésion massive à cette élection. Donc, il va y avoir un taux d'abstention important, y compris du camp islamiste. Et deuxième élément, les islamistes, contrairement à la Tunisie, contrairement à l'Égypte, contrairement au Maroc, ils sont dans le gouvernement depuis 10 années. Ils participent à la gestion des affaires. Le principal parti qui est le MSP est dans le gouvernement depuis 1996. Ils sont impliqués dans la gestion. Donc, les électeurs algériens ont eu à juger ce parti, en tout cas, qui ne diffère pas des autres partis qui composent le gouvernement.
C'est-à-dire que si les islamistes réussissent malgré tout à former une coalition, ça ne changera pas grand-chose à la politique actuelle en Algérie ?
Absolument. Et il y a ce qu'on appelle ici des islamistes maison. C'est ce qu'on appelle l'Alliance verte. En fait, c'est une alliance de 3 partis islamistes qui s'est constituée par opposition à un autre parti islamiste représenté essentiellement par Abdelah Jabalah, qui est un sérieux concurrent pour les islamistes. Les voix islamistes seront éparpillées. Il y a 5-6 partis islamistes qui se présentent à ces élections. Donc, il va y avoir un éparpillement, un éclatement de l'électorat islamiste. Et ce n'est pas évident de les voir à l'Assemblée, une coalition d'islamistes, parce qu'ils sont traversés de divergences très profondes. Et le nombre de ces partis sont issus des dissidences des anciens partis islamistes.
Et alors, à votre avis, est-ce qu'un parti aura une majorité pour lui ?
C'est justement là la question. À mon avis, il n'y aura pas un parti qui aura une majorité, même une majorité simple, même une majorité relative. On aura une future assemblée, une espèce de patchwork avec 44 partis politiques. On aura 10 à 15 partis qui vont se partager l'essentiel des sièges sans qu'il y ait un parti ou une force politique dominante.
Et si les islamistes réussissent à augmenter leur nombre de députés comme on s'y attend, ils en ont 59 aujourd'hui, est-ce que ce sera le signe d'une islamisation de la société algérienne ?
En tout cas, c'est vrai qu'à l'occasion d'une élection, c'est la traduction des courants qui traversent, qui dominent la société. Nous, on parle en tout cas d'une ré-islamisation rampante de la société qui s'exprime pas uniquement à travers les partis politiques, mais à travers beaucoup de relais, notamment les mosquées. Déjà, les islamistes, ils sont au pouvoir. Et le FLN, en tout cas, dans sa version actuelle, c'est un parti ultra-conservateur, avec une dérive islamiste. Hein. L'actuelle direction du FLN a essayé de contracter des alliances avec des partis islamistes dans la perspective de l'élection présidentielle.
Et donc en fait, FLN et parti islamiste modéré, on n'est pas dans une opposition franche ?
Non. Nous, en tout cas, c'est pas, même si on prend le cas de Jabalah, qui est présenté comme la figure opposante au pouvoir, sinon le reste, en tout cas des partis islamistes, c'est des partis qui sont soit dans le pouvoir, qui sont dans le soutien critique au pouvoir.
Merci beaucoup Hassen Wali. Je rappelle que vous êtes journaliste politique au quotidien algérien El Watan. C'est une révolution pour l'Amérique puritaine. Barack Obama a affirmé aujourd'hui dans un entretien à la chaîne ABC son soutien au mariage homosexuel. Il est le premier président américain à adopter cette position. Précision à Washington de Fabienne Sintès.
Barack Obama ne pouvait pas éviter le sujet plus longtemps. Il est important pour moi d'aller de l'avant, a-t-il dit sur ABC, d'affirmer que les personnes du même sexe devraient être autorisées à se marier. Par cette phrase, il montre sa longue hésitation. Il dit sa réflexion sur le sujet. Et pendant la campagne de 2008 et les mois qui ont suivi, le président américain s'est borné à soutenir les partenariats civils. Et puis il a parlé de l'évolution de son point de vue jusqu'à cette déclaration, donc, à laquelle on s'attendait depuis dimanche dernier, depuis que Joe Biden, le vice-président, avait presque lâché le morceau lors d'une interview télévisée. Le sujet du mariage gay, il est explosif aux États-Unis. 6 États plus la capitale Washington l'ont légalisé, mais 30 autres ont adopté des amendements constitutionnels qui l'interdisent totalement. Le dernier vote, c'était mardi dernier en Caroline du Nord. Obama, à 6 mois des élections, vient de faire plaisir aux jeunes, moins statistiquement aux noirs. Il a pris soin de rappeler qu'il n'entendait pas modifier la Constitution et que les États restaient souverains sur la question.
Fabienne Sintès, la météo demain, ce sera beau et chaud sur l'ensemble du pays.